8h47 sur France Culture, la transition d'Hervé Gardette. Hervé, vous nous parlez de méthane, d'hamburger et de permafrost.
Il y a quelques semaines, une célèbre enseigne de fast-food nous invitait à respirer les pets du changement. Breathe the farts of change. Sa promesse, des burgers moins polluants. Sa trouvaille, la citronnelle, qui, une fois incorporée dans l'alimentation des vaches, aurait pour effet de réduire leur flatulence et par conséquent de réduire les émissions de méthane au moment de leur digestion. Alors le méthane n'est pas le plus connu des gaz à effet de serre, mais il n'en est pas moins brutal. Si sa durée de vie dans l'atmosphère est de l'ordre d'une dizaine d'années, ce qui est assez court si on le compare par exemple au protoxyde d'azote qui lui reste 120 ans, son pouvoir réchauffant est bien plus important que les autres gaz. Pour vous donner une idée, sur une durée de 20 ans, une tonne de méthane équivaut, en termes de participation au réchauffement, à 84 tonnes de CO2. Alors, c'était un petit peu compliqué à visualiser, mais retenez une chose. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre dont les émissions augmentent à un rythme annuel de 9% depuis le début des années 2000, y compris cette année, malgré la pandémie. Alors, est-ce la photo ruminant? Il n'y a pas seulement. Vous ne pouvez pas vous contenter, par exemple, Guillaume, pour faire baisser les émissions, de réduire votre consommation de viande. Il va aussi falloir renoncer, je sais que c'est un gros sacrifice, à la paella et au risotto.
Car le risotto, jamais.
Les rizières, figurez-vous, sont une autre source importante d'émissions de méthane, tout comme les zones humides.
On peut faire du risotto à d'autres choses que du riz.
Qu'avec du riz?
Oui, bien sûr.
Avec du quinoa?
Quinoa, par exemple, même avec des pâtes. Je vous montrerai avec des coquillettes.
Et moi, de mon côté, je vais voir si le quinoa émet du méthane.
Je vous donnerai la recette, je vous en ferai. Enfin, en ce moment, c'est compliqué de vous inviter à dîner. Je vous expliquerai pourquoi dans un moment.
Donc, on en était aux rizières, vous êtes d'accord?
Ah ben,
les rizières, mais qui ne sont pas la seule source. Il y a les zones humides, les végétaux en décomposition, les décharges à ciel ouvert et l'exploitation des hydrocarbures. Alors, depuis le début de l'ère industrielle, la concentration moyenne de méthane dans l'atmosphère a été multipliée par 2,5, ce qui en fait, derrière le CO2, une des principales causes directes et indirectes du changement climatique. Et nous n'avons peut-être encore rien vu, car le pire serait à venir. Le pire, eh oui, la libération, j'essaie de rester un petit peu, vous voyez, conforme à l'ambiance de la matinée. Le pire, c'est la libération dans l'atmosphère de quantités phénoménales de méthane, pour l'instant prisonnière du permafrost, ou si vous préférez, du pergélisol, c'est le nom français du permafrost, c'est-à-dire le sous-sol gelé dans la région de l'Arctique. Avec la hausse des températures, et cette hausse est particulièrement sensible dans cette partie du globe, on pourrait assister à une hausse vertigineuse des émissions de ce gaz. La fonte du pergélisol fait d'ailleurs partie de ce qu'on appelle les seuils de rupture climatique qui ont pour spécificité de déclencher des cercles vicieux d'emballement du climat. Ah oui, mais tout ça, me direz-vous, c'est théorique. Eh bien, pas tant que ça, si on en croit un article que vient tout juste de publier The Guardian. Le journal britannique fait état d'une découverte inquiétante des gisements de méthane gelés et concentrés dans les profondeurs de l'océan Arctique seraient en train de remonter à la surface et menaceraient de gagner l'atmosphère. Les scientifiques à l'origine de cette découverte mentionnent des concentrations à la surface de l'eau 4 à 8 fois supérieures à la normale. Alors, il y a de quoi être inquiet, mais pas encore de paniquer. D'abord parce que, de l'aveu même des scientifiques, les données récoltées sur le terrain demandent encore à être analysées plus finement avant une hypothétique publication. Tout reste donc à trouver. Par ailleurs, l'étude des climats anciens permet de relativiser le risque d'un dégagement soudain de méthane suite au réchauffement des régions arctiques. Comme l'écrivent les auteurs du livre « Climat, passé, présent, futur » aux éditions Belin, durant les périodes interglaciaires les plus chaudes, ce qui remonte à très loin dans le temps, hein, pendant lesquelles la température globale était supérieure de 2 degrés à notre période actuelle, la quantité de méthane dans l'atmosphère est restée assez stable. Ces faits, écrivent-ils, suggèrent que si un réchauffement du même ordre a lieu dans les prochaines décennies, il ne modifiera pas de façon sensible la quantité de méthane présente dans l'atmosphère. Bon, donc vous étiez inquiet, je vous ai rassuré, Guillaume. Vous êtes rassuré, attention quand même, car que se passera-t-il si le réchauffement dépasse les 2 degrés?
Oui, je me le demandais justement.
Eh bien, je ne peux pas vous répondre car on n'en sait rien. Le passé ne nous est d'aucun secours. Ce serait le grand saut dans l'inconnu. Un possible basculement, un emballement climatique dont il est extrêmement difficile aujourd'hui d'anticiper les effets. Le mieux, c'est donc de tout faire pour limiter le plus possible le réchauffement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, dont le méthane, véritable épée de Damoclès.